Dans la parole de Dieu, dans Jean, au chapitre 5. Et je le disais tantôt, Jésus donnait l'occasion de croire à toutes sortes de personnes. Et souvent, on pense aux personnes comme la femme samaritaine dans le chapitre 4, une femme délaissée qui était, puis Jésus a eu compassion d'elle, il a fait un détour pour elle, et souvent des malades, des estropiés, tout ça, mais aussi les leaders religieux, même ceux qui le détestaient, puis d'une haine grandissante, Jésus les appelait encore à croire en lui, se révélait à eux, mais malheureusement, la majorité n'ont pas cru, mais certains, oui. Et donc, on considère ça aujourd'hui dans Jean 5. On va juste lire pour s'introduire les versets 10 jusqu'à 15. On va lire plus que ça à travers le message, mais pour se mettre un peu dans le contexte, on va lire ces versets-là. C'était un jour de sabbat, donc la guérison de l'homme, c'est arrivé le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. On va prier. On te remercie, Seigneur, de ce que toute ta parole est inspirée et que toi, Esprit du Dieu vivant, tu parles encore aujourd'hui à travers ta parole merveilleuse. Mais Seigneur, la condition, c'est qu'on ajoute foi à ce qu'on entend. Donc, on veut vraiment, Seigneur, te demander de disposer chacun ici. Dispose nos cœurs à entendre ta douce voix, nous, tes enfants, rachetés, sauvés, pour, Seigneur, que tu puisses nous montrer ce que tu as pour chacun de nous ici. Et oui, merci aussi que tu appelles encore les pécheurs à toi, ceux qui sont encore morts dans leur offense et leur péché. Seigneur, tu leur offres la vie, tu t'offres toi-même la vie, la grâce. Et donc, Seigneur, fais ce que juste toi peux faire. Fais porter du fruit éternel à ta parole qu'on considère ensemble ce matin ici. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. On va voir la controverse entre Jésus et le leadership d'Israël. C'est le titre du message. Controverse entre Jésus et le leadership d'Israël. Je dirais, c'est le début parce que c'est pas terminé. Dans Jean, on voit vraiment cette tension qui monte. Mais je vous fais remarquer que dans le premier verset, au verset 10, ça dit « C'est un jour de sabbat ». Et c'est ça toute l'idée de la controverse. Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat, mais en plus, il a dit « Prends ton lit et marche ». C'était ça qui faisait que les gens étaient outrés. Pour nous, on peut avoir de la misère à comprendre dans notre contexte actuel ici, mais même si on allait en ce moment dans une communauté juive, on ne serait pas surpris de ça. Mais c'était comme ça, et c'était vraiment très strict. Mais il est important ici de comprendre qu'au-delà de la controverse, Jésus lui-même est celui qui a non seulement voulu, mais aussi orchestré les choses pour qu'elles en soient ainsi. Pourquoi? Il a opéré ce miracle le jour du sabbat, puis il a dit à l'homme de prendre son lit et de se lever, de le prendre, de le transporter le jour du sabbat, parce qu'il voulait révéler, oui, l'hypocrisie du leadership religieux, leur focus, leur attention qui était à la mauvaise place, mais aussi il voulait se révéler lui-même. Donc, Jésus avait quelque chose vraiment ici, bien au-delà de la controverse, il y avait une révélation de ses voies, de qui il est, mais aussi il voulait que les gens du leadership religieux se voient eux-mêmes tels qu'ils sont. Parce que ces gens étaient tellement préoccupés par cette question du sabbat, puis de cet homme qui se promenait avec son lit le jour du sabbat, qui avait une haine qui allait jusqu'au meurtre. Parce qu'on le voit, évidemment, ici, on ne voit pas qu'il voulait le tuer, là, mais quand on voit comment les choses avancent dans Jean, c'est allé jusque-là. Pour que Jésus, dans le fond, a permis à un homme de marché, de transporter son lit le jour du sabbat. Et on pourrait dire, il était vraiment concentré sur la mauvaise chose, il se concentrait alors que, et il était enragé, alors qu'il aurait dû se réjouir de la compassion. Et là-dessus, j'ai retenu deux passages pour vous aider à comprendre que ces gens-là avaient l'Ancien Testament, mais ils ne comprenaient pas les Écritures, leurs propres Écritures, juste deux passages. Et Jésus, le premier, Osée 6:6, Jésus l'a cité deux fois au leadership spirituel d'Israël. Et c'est Osée 6:6, ça dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ces gens-là avaient perdu le sens fondamental de la parole de Dieu qui leur avait été donnée. Et dans Ésaïe 58, on voit, on pourrait lire le chapitre au complet, mais le jeûne qui plaît à l'Éternel, on peut lire dans le verset 13 et 14, la fin du chapitre, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ces gens-là avaient tout sauf le plaisir, la joie dans l'Éternel et faire les délices de ce jour-là. C'était rendu vraiment légaliste au sens le plus strict du terme. Ils avaient complètement perdu l'idée du sabbat. On va aller plus loin parce qu'il y avait plus que juste ça. Parce que Jésus voulait révéler sur lui-même des choses par rapport à tout ce qui arrive ici. Et donc, quand Jésus, j'ai dit tantôt qu'il voulait se révéler, bien, à partir de ce moment-là, dans Jean, Jésus fait des déclarations qu'il n'avait pas encore faites, des grandes déclarations sur lui-même, sa relation avec le Père. On va voir ça dans les versets 17 à 30, on va voir même la semaine prochaine avec les témoignages qui appuient cela. Mais j'aimerais qu'on voit que ce que Jésus fait là, c'est un acte de compassion envers ses leaders religieux rebelles, qui étaient rebelles à leur Dieu. Et qu'on puisse voir que souvent, nos controverses, ce qui nous heurte, ce qui vient nous sortir de notre zone de confort, de notre façon établie de penser, souvent ce sont les moments spécifiques et choisis par Dieu pour se révéler à nos cœurs. Dieu nous dérange pour se révéler à nous. Nous avons simplement besoin d'être ouverts. Parce que là, je veux pas avoir un message qui parle du leadership d'Israël pour pas qu'on s'identifie. Dieu a quelque chose pour nous, là. Par exemple, ça est arrivé récemment, mais ça arrive à tout le monde, des conflits interpersonnels. T'arrives-tu dans la région de Montréal, des conflits interpersonnels? Non, hein? Vous autres, tout est beau là-bas. On va tous déménager à Montréal. C'est la terre promise! La terre promise! Non, on a des conflits interpersonnels, ça peut être dans le couple, dans la famille, au travail, dans toutes sortes de domaines. Non seulement ces occasions-là sont une occasion où est-ce que Dieu veut nous révéler, nous, à nous-mêmes, qu'on se voit nous-mêmes dans nos tares et nos péchés, OK, les choses que Dieu veut nous montrer pour former Christ en nous, OK? Mais Dieu ne veut pas juste nous montrer les problèmes, les choses qui ne marchent pas avec nous autres. Dieu veut nous montrer comment il est la provision parfaite à ces problèmes. Voyez-vous, c'est plus que juste dire « Ah, t'as un problème, t'es donc même pas bon. » C'est « Non, moi, je suis tellement bon, je suis la solution à toutes ces choses-là. Ce qui te manque, c'est moi la provision. » Et ça change complètement la façon de voir les choses qui peuvent nous arriver, les contrariétés auxquelles Dieu nous expose. Par exemple, tu sais, ça peut arriver, bon, je parle dans des occasions comme ça, souvent, ce qui peut arriver, un pattern, c'est que puis on va dire Dieu, mais des fois il y a de l'instrumentalité humaine, puis souvent c'est là que le bas blesse, là, mais Dieu nous remet à notre place. Il nous montre nos torts, nos responsabilités, des choses dont nous sommes coupables, à juste titre. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la culpabilité et la honte et s'approprier ça comme étant notre identité puis ce que nous sommes. Non, Dieu permet ça pour que ça soit un tremplin vers l'identité que lui nous a donnée en lui. Mon identité, ce n'est pas mon péché, ce n'est pas mon passé, c'est ce que Dieu a fait de moi. Donc, si Dieu me révèle ça, c'est parce qu'il veut me montrer, « Hey, je suis ta paix, je suis ta victoire, je suis ta joie, je suis tout suffisant pour tous tes besoins. Donc, on voit, un peu comme ça a été prié tantôt, le problème, c'est pas le problème. Que nous, on voit que, hey, au secours, c'est donc bien pas bon cette affaire-là. Ça, c'est juste le moyen par lequel Dieu veut nous révéler quelque chose au-delà de ce qui frappe à l'œil. Dieu veut qu'on vive ce qu'on appelle la vie échangée. Échanger notre faiblesse pour sa force, notre péché pour sa victoire. Et tant qu'à être dans Ésaïe, ça vient juste de me popper comme ça à l'esprit, parce que ça va avec ce que je suis en train de vous dire. Les adolescents, non, on va commencer au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça résume bien tout ce que je suis en train de vous expliquer. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. C'est pour ça que Dieu permet la contrariété, les choses qui nous heurtent. C'est parce qu'il veut nous rencontrer, il veut échanger ce qui ne marche pas par lui-même. Puis lui, il marche tout le temps. Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est vrai. Lorsqu'on se confie en lui dans ce qu'il nous permet, on trouve sa grâce qui est toujours suffisante. Ma grâce te suffit. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait ici avec le leadership d'Israël. Il s'offrait lui-même. Il voulait qu'il trouve en Jésus ce qu'il ne trouvait pas dans leur religion humaine. Leur religion d'œuvre, leur religion vide. Puis même Jésus le dit, on l'a vu ce matin, ils cherchaient dans les Écritures en croyant avoir en elles la vie, mais Jésus qui est la vie était là devant eux, puis ils n'allaient pas à lui. Il manquait le personnage principal de leurs propres Écritures. Et c'est ce que Jésus voulait leur offrir lui-même qui se confie en lui. Mais malheureusement, comme ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, et Pierre aussi, dans 1 Pierre en parle, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Jésus est la pierre angulaire, mais malheureusement, ils se sont heurtés à cette pierre parce qu'ils ont été scandalisés par les propos de Jésus. Et c'est vraiment ici ce qu'on voit avec le texte qu'on a sous les yeux. J'aimerais qu'on considère ensemble, avec maintenant les minutes qui nous restent, 4 éléments de la controverse de Jésus avec le leadership d'Israël. 4 éléments. D'abord, dans les versets 10 à 16, il y a la provocation du conflit. Comme je le disais tantôt, c'est Jésus lui-même qui a provoqué le conflit en accomplissant ce miracle le jour du sabbat et en disant à l'homme de prendre son lit. Okay? C'était un jour de sabbat, verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » OK? Mais ici, le problème, c'était que le centre d'attention, le focus sur le sabbat était symptomatique, révélait le problème spirituel qui n'avait pas de relation avec Dieu, qui ne connaissait pas Dieu comme leur père. Et encore moins le Fils qui était venu pour le révéler. Et c'est ça que Jésus voulait faire avec ces choses-là qui arrivaient. Il voulait révéler la réalité spirituelle dans laquelle ils étaient. Jésus a dit dans Luc 10, 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et là, Jésus voulait se révéler à eux, mais eux ne le recevaient pas. Et on voit une pression, verset 11, « Il leur répondit, ça c'est le malade qui parle, celui qui a été guéri, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » On voit qu'il y a une pression, là. Ils le mettent, là, sur le banc des accusés. « Hey, c'est qui a fait ça? C'est celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit. » Tu sais, on voit qu'il y a une pression ici, là. C'est un moment tendu entre ces leaders et cet homme qui a été guéri. Puis regardez au verset 12, ça dit, « Il lui demanda qui? » Au moins, il pose la bonne question. Des fois, on peut se demander le quoi, le comment, mais qui? Toi qui ne cherchais pas pour la bonne raison. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? En fait, il ne cherchait pas Jésus, il cherchait un coupable. Il ne cherchait pas Dieu, il cherchait à justifier leur haine. Et pourtant, la bonté de Dieu les poussait à la repentance. Mais il est en train de passer à côté parce que leur focus n'était pas à la bonne place. On continue, verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il y a un parallèle ici, parce que ici, c'est une guérison avec cet homme qui est, bon, on va dire paralytique, ça ne dit pas exactement ce qu'il y avait, mais dans Jean 9, plus tard, c'est un aveugle qui, lui aussi, il ne comprend pas tout ce qui arrive, il est confronté au leadership, puis là, il pose des questions, ben là, je ne sais pas c'est qui, puis, OK? Fait que, il y a un peu cette situation où est-ce qu'on est dans le flou, mais vous allez voir, ça ne dure pas longtemps, parce que, verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » C'est Jésus qui le trouve. C'est Jésus qui le cherche. Puis là, on a la fin du verset qui est spéciale, parce que voici ce qu'il dit à l'homme. Une fois qu'il l'a trouvé, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette phrase-là? Moi, j'ai déjà pensé, « Ben là, tu sais, t'as été paralytique, si tu continues, tu étais paraplégique, tu vas être quadraplégique si tu te... » OK? Je pense pas que c'est ça du tout. En fait, je pense que l'idée, c'est que cet homme-là était physiquement malade et limité. Mais là, il était face à une situation où est-ce que là, il y avait un esclavage spirituel terrible qui était devant lui, puis il y avait un choix. C'est-à-dire que là, Jésus s'était révélé à lui, puis s'il cédait à la pression, comme je l'ai parlé, du leadership, là, il allait se placer sous l'esclavage spirituel de la crainte de l'homme, de la religion, puis sa condition aurait été pire. Parce que quand il était esclave physiquement, c'était une chose, mais être esclave spirituellement, c'en est une autre qui est encore pire. C'est pour ça qu'il dit, pêche plus. Autrement dit, tu as l'occasion de pécher en ne te confiant pas en moi, en confessant pas qui je suis. Puis là, ta condition va être pire si tu n'ajoutes pas foi à ce que tu es en train de vivre. OK? Je crois que c'est ça vraiment ici, le sens de ce qui arrive. Ou pour le paraphraser, c'est un peu comme si Jésus disait, ne mens pas au sujet de qui je suis, parce que là, il allait découvrir qui est Jésus. Fait que, sois véridique par rapport à qui je révèle être. Mets ta foi en moi de peur que tu sois sous l'esclavage de leur menace, de la crainte de l'homme. OK? C'est un peu ça ici, le sens de ce qui arrive. Puis, on voit la suite des choses. L'homme, il s'en alla, verset 15, et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il a fait ce que Jésus, tu sais, Jésus s'est révélé à lui, puis il l'a annoncé, il l'a déclaré, il l'a proclamé, qui est l'identité de celui qui l'avait délivré. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces événements-là, plus qu'une simple guérison physique. Jésus opérait aussi une guérison spirituelle. Cet homme-là était libéré de la religion. Il était en train de découvrir qui est Jésus, puis croire en qui Jésus révèle être. OK? Et là, c'est intéressant le verset 16, parce que ça nous dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Ici, ça poursuivait, mais allez voir, là, quand on avance dans Jean, à un moment donné, là, ça dit qu'ils voulaient le faire tuer, à un moment donné, ils grincent même des dents. Je vous dis, c'est une haine meurtrière qui les animait. Là, disons que c'est au commencement de tout ça. Ils poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Je crois que c'était voulu par Jésus. Non seulement, bon, de provoquer... OK, Jésus a provoqué le conflit, la controverse, mais aussi, je pense qu'il voulait qu'il coure après. Parce que Jésus avait des choses à leur dire, à leur révéler sur lui-même. OK? Entre autres, qu'il est le maître du sabbat. N'est-ce pas quelque chose qu'il a dit aussi à une autre occasion? Mais encore mieux que ça, qu'il est l'accomplissement du sabbat. C'est que là, eux autres étaient là avec les Écritures. Hey, c'est le sabbat, puis c'est ça. Mais là, ils voyaient celui qui est le vrai repos. Entrer dans le repos de Dieu, c'était par Jésus qui était là devant lui, devant eux autres. Puis ça, là-dessus, je vous cite Hébreux au chapitre... je l'ai-tu écrit? Hébreux chapitre 4. Ah oui, je l'ai ici. Ça nous dit, car si Josué avait donné le repos, et là, évidemment, on parle de ta promise Canaan, OK? Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Jésus, on comprend ça, c'est dans Hébreux, c'est plus tard, mais Jésus déjà voulait amener cette révélation-là, qu'il est l'accomplissement du sabbat, il est le repos de Dieu, il est la terre promise. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies en lui. OK? Et c'est ça qu'il voulait leur donner. Pour ça qu'ils brassaient dans leur confort, dans leurs habitudes, dans ce qu'eux autres étaient habitués. Il les amenait de ce qu'ils connaissaient vers ce qu'ils ne connaissaient pas. Puis ça va, c'est tellement bien résumé dans « Vous sondez les Écritures hein, », ça parle du sabbat des Écritures. Hein, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. On pourrait le paraphraser. Vous ne venez pas à moi pour avoir le vrai repos. Vous voulez essayer de trouver le repos dans votre, dans toute votre, votre religiosité et tout ça. Puis vous ne venez pas à moi pour trouver le vrai repos. Et donc ça met la table. On a ici une contradiction, une provocation, mais qui est un appel au repos. N'est-ce pas vrai pour nous autres aussi? Tu sais, Dieu, on dit, « Hey, Dieu, ça me dérange, là. C'est donc bien plate ce que tu permets, là. Pourquoi je suis malade? Pourquoi que j'ai cette personne-là à mon travail? » OK? Puis Dieu dit, « Ouais, mais ça, c'est la façon par laquelle j'ai décidé de t'appeler à moi puis de trouver ton repos en moi. Ton repos, tu ne vas pas le trouver dans tes relations, dans tes circonstances, dans ci puis dans ça. Le repos se trouve en moi seul. » Première application par rapport à ce premier point. Deuxième point, l'explication du conflit. Il y a la provocation du conflit, mais ensuite, il y a l'explication du conflit. Versets 17 et 18, Jésus ici a une déclaration très claire sur qui il est, son égalité au Père, verset 17. Mais Jésus leur a répondu, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et là ici, c'est une déclaration d'égalité entre le Père et le Fils. Et ils ont compris parce que la réaction, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement à l'affaire du sabbat, mais là, ce que Jésus dit de lui-même en relation avec le Père, non seulement, excusez, je vais recommencer par ces deux. À cause de là, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal. Et voyez-vous comment que c'était juste un tremplin, l'idée du miracle, c'était pour révéler qui il est, et spécialement en relation avec Dieu le Père, qu'eux autres disaient connaître, mais qu'ils ne connaissaient pas, parce que Jésus leur a dit, « Vous ne connaissez pas mon Père qu'il est venu révéler. » Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté, ils comprenaient que Jésus se faisait égal à Dieu, ils comprenaient le sens de ce que Jésus disait, et ça a engendré chez eux une haine meurtrière. Là, on va prendre un peu de vent. Je vais vous citer ce que Jésus, plus tard, parce que je vous l'ai dit, la tension, elle n'a pas fini de monter. Là. Dans Jean 8, il leur parle de leur père à eux, lorsqu'il dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable. » Il parle encore au même leadership d'Israël. « Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc c'est ça ici l'animosité. C'est ça le problème fondamental, la réalité spirituelle derrière le conflit ici. Jésus parle de son père, mais eux autres aussi avaient leur père. Et c'est ce que la Bible dit, hein, que Satan est le prince de ce monde et que les fils de la rébellion, tout le monde qui est encore mort dans ses offenses et ses péchés, a pour père le diable. C'est sûr qu'on est dans le royaume de Satan, ou quand on est né de nouveau, on rentre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de bonnes personnes là, qui sont comme moins pires que les autres. Non, c'est deux catégories, c'est tout. Et maintenant, je vais faire une application par rapport à tout ça, parce que déclaration ici sur l'identité de Jésus, son égalité avec Dieu. Je pense que ce que je vais vous aider, ça va vous aider à comprendre pour vous, les enfants de Dieu, mais aussi comprendre le monde autour de vous autres. Satan, on sait que Satan veut s'attaquer premièrement à Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, celui que Satan a haï le plus, oui, il déteste les enfants de Dieu, mais c'est Dieu. Il y a une haine viscérale contre Dieu. Mais lorsqu'on parle de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, l'attaque première, là où est-ce que vraiment l'attaque de Satan va se concentrer pour les non-sauvés, c'est sur qui Dieu est, la personne de Dieu. OK? Parce qu'ils ne le connaissent pas, puis ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité, fait qu'ils vont essayer de déformer qui Dieu est. Ah, Dieu, là, il n'est pas vraiment bon. Non, Dieu, il ne peut pas te sauver. Ça, c'est trop grand. Tu sais, il s'attaque à la personne de Dieu. Dieu, il n'est pas capable parce que Il n'est pas tout puissant. OK? Comprenez-vous? Ça va aller dans ce domaine-là, attaque à la personne de Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, la Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Son attaque va aller plus sur l'œuvre de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu a accepté qui Dieu est. Il a reconnu qu'il y a un seul Dieu qui a envoyé son Fils et qu'on le connaît par le Saint-Esprit. Un seul Dieu trinitaire révélé en Jésus-Christ. Et donc, là-dessus, il ne peut pas jouer ben, parce qu'un enfant de Dieu reconnaît déjà qui Dieu est. Mais il va essayer de s'attaquer à son œuvre. Dieu n'est pas vraiment suffisant. Ah, c'est beau Dieu, mais... Puis là, ça va être une attaque sur l'œuvre de Dieu. Un exemple frappant des Écritures, dans Matthieu 16, Jésus fait passer le test aux disciples. Il dit, OK, les gens autour, là, qui disent que je suis? Ben, il y en a qui disent que tu es un prophète, l'autre Élie, puis OK. Puis après ça, il dit, OK, vous, qui dites-vous que je suis? Et là, la déclaration, on peut dire que Pierre a passé son examen, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il comprenait vraiment qui Jésus était, la personne de Dieu. Il a coché, il a passé l'examen. Pourquoi? Parce qu'il croyait à qui Dieu est, comment il est venu se révéler en son Fils Jésus. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après? Jésus commence à parler de son œuvre, ce qu'il est venu faire, aller mourir à la croix, comme un criminel, comme un criminel notoire qui est humilié publiquement. C'est ça la croix. Et là, Satan se pointe. Et cette contradiction dans le cœur de Pierre, ben voyons, s'il est le Fils de Dieu, ça ne se peut pas qu'il meure comme un criminel de même. Puis là, il va dire ça à Jésus. Il reprend carrément Dieu en disant, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », comme si Jésus était menteur. Puis qu'est-ce que Jésus dit? « Ailleurs de moi, Satan. » Là, ce n'est pas parce que, que Pierre était possédé, là. C'est juste parce qu'il dit, il l'explique, « Tes pensées sont les pensées des hommes et non celles de Dieu. » Pour un enfant de Dieu, le piège, c'est de penser humainement par rapport aux voies, aux œuvres de Dieu. De réduire Dieu dans la façon qu'il va procéder, la façon qu'il agit. C'est l'attaque première dans la vie d'un enfant de Dieu face à l'ennemi. Ça veut dire que les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir des fois des doutes sur la personne de Dieu, mais la puissance de ce mensonge a été brisée parce qu'on a reconnu Jésus comme notre sauveur, le seul sauveur, OK? La question de son identité, elle est réglée. Mais c'est tout qu'un piège pour un enfant de Dieu. Et je dirais, souvent, ça peut être de regarder à nos œuvres, à ce que nous on fait, et non pas à son œuvre, à ce que lui a fait. Non seulement pour nous, mais avec nous. Et de négliger ce que Dieu a fait de nous, il a fait toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et sur cette facette précise de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est là que Satan va bâtir ses forteresses de mensonges. Où est-ce qu'il va réussir à convaincre un enfant de Dieu en disant « Le problème qui t'arrive, c'est trop gros. Tu ne pourras jamais t'en sortir. » Puis là, il va nous arriver au désespoir, arriver à tellement voir le problème tellement grand que dans notre imaginaire, il est devenu plus grand que Dieu. Puis c'est pas parce qu'on ne croit pas que Dieu est là et qu'il nous aime, c'est qu'on on croit ou on ne croit pas ce que Dieu dit au sujet de ce qu'il fait. Ses voies sont parfaites, puis oui, ça heurte, oui, ça peut faire mal, mais c'est le plan de Dieu, puis c'est la voie de la délivrance, ou pour le dire dans des mots qu'on aime utiliser. Oui, la vie est là, puis Dieu veut faire rejaillir sa vie à travers ça, mais ça passe par la mort. Ça passe, oui, par la souffrance, parce que c'est le chemin que Dieu a désigné pour qu'on trouve la vie et que la gloire est toute à lui. Parce que là, nous, on va dire, moi, j'ai rien fait pour ça. C'est toute la grâce de Dieu. C'est lui, et non pas moi, qui a fait ce miracle de la grâce de Dieu. Et donc, savez-vous, une forteresse de mensonges, là, au lieu d'avoir peur, de dire « Ah, une forteresse, ça a l'air fort, ça! » Comment qu'on renverse les forteresses? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et comment qu'on renverse les forteresses de mensonges? Bien, avec la vérité! La vérité, et spécialement les vérités christiques. Les vérités de notre identité en Jésus, ce que nous sommes en lui, ce qu'il est en nous, ce qu'il a fait de nous. ce que nous sommes en lui et toutes ces choses-là, c'est là qu'est la délivrance. C'est pour ça que j'encourage les gens à méditer sur des passages comme Galates 2:20, Romains 6, Jean 15, des versets sur notre union avec Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui. Et pour revenir à notre texte, avec ces gens ici, c'est ça que Jésus voulait leur donner. Il voulait non seulement leur révéler, c'était des gens pas sauvés, qui voulaient leur révéler qui il est, mais aussi, pour nous qui lisons ça ce matin, il veut qu'on voit que ses voies sont parfaites. Donc, ça m'amène, fait que là, on voit une explication ici, c'est toute la réalité de la divinité de Jésus, c'est ça qui pour eux autres, est un problème. Ça a amené l'attention à un autre niveau. Mais là, préparez-vous parce que ça va encore aller plus loin. Où est-ce qu'on voit la proclamation qui augmente le conflit? Parce que là, il y a une tension avec le jour du sabbat. Jésus vient de faire un énoncé au verset 17 avec son égalité au Père. Mais là, il va aller encore plus loin en révélant encore plus qui il est. Mais évidemment, ça va les déranger encore plus. On voit verset 19. Jésus reprit donc la parole et dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. » Le Fils le fait pareillement. Ceux qui connaissent un peu les termes théologiques, ici, là, il y a clairement une référence à ce qu'on appelle la kénose. Le fait que Jésus, ici, là, Jésus ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Il dit que dans son incarnation, il s'est dépouillé de certains attributs divins, comme on voit dans Philippiens 2. Hein, il s'est dépouillé de sa gloire pour se placer en totale dépendance au Père. Il n'a pas arrêté d'être Dieu. C'est 100% Dieu, 100% homme, mais il a mis de côté certains attributs divins pour se mettre en dépendance au Père. C'est ça, ce qu'on appelle la kénose, ça vient avec la doctrine de l'incarnation. Et Jésus en parle ici, on va voir aussi au verset 30, lorsqu'il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, c'est toute seule l'idée, c'est la dépendance totale au Père. Et là ici, on pourrait se dire, OK, sont contrariés déjà avec ce qu'il a dit au verset 17, c'est-à-dire à cause de cela, il cherchait encore plus à le faire mourir, OK, verset 18, puis Jésus, il continue, il en met encore plus. C'est comme s'il était choqué, puis c'est comme s'il voulait provoquer ou être antagoniste, mais c'est pas ça. Premièrement, il n'a pas pris la fuite, mais ce qu'il voulait faire, Jésus, il voulait surmonter le mal par le bien. Tout le mal du mensonge, de la tromperie, de la dureté du cœur, il voulait le surmonter par la proclamation de la vérité sur qui il est. Parce que c'est ça, vous connaîtrez la vérité, Jésus est la vérité, et la vérité vous affranchira. Il leur donnait la seule chose dont il avait besoin, lui, la vérité qui libère. Et Jésus, dans le fond, ici, là, quand on voit les versets qui suivent, il continue à amener différents... différentes couches de révélation de qui il est qui font qu'il est égal au Père. Parce que vous allez voir dans les versets qui suivent, on voit que tout ce que Jésus dit sur lui-même, c'est vrai aussi pour le Père. Par exemple, au verset 20, « Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Puis là, c'est quoi l'étonnement? Il veut que, OK, l'idée, c'est que vous soyez frappés de ma doctrine, que vous soyez frappés de ce que je vous dis sur moi-même. Verset 21, car le Père ressuscite, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus, comme le Père, a l'autorité de donner la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est juste Dieu qui est capable de donner la vie. Voyez-vous, si le Père peut donner la vie, Jésus, en disant qu'il peut donner la vie, il se fait égal au Père. Deuxième chose, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc, comme le Père aussi, il a l'autorité de juger. Tout jugement a été remis au Fils. En fait, ça nous dit dans l'Apocalypse, tu sais, l'Apocalypse, c'est Jésus dans toute sa gloire, Apocalypse 22, à la fin du livre, on peut lire, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Donc Jésus, tout comme le Père, a l'autorité de donner la vie, de juger, mais aussi regardez le verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc encore là, ici on voit, comme le Père, il a la dignité de recevoir l'honneur, de par qui il est Jésus, est digne de tout honneur. Et ça aussi, on apprend en Apocalypse, ça dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis il y a d'autres passages comme ça dans Apocalypse qu'on voit la dignité propre à Jésus-Christ de par qui il est et aussi ce qu'il a fait. Ça nous amène au verset 24. Et ça, c'est un verset tellement puissant des Écritures. Un bon verset pour partager l'Évangile avec quelqu'un. Puis quand vous voyez en vérité, ça veut dire c'est vraiment quelque chose d'important. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous comme il dit, il y a le pouvoir de donner la vie, de juger, mais si vous croyez en moi, je vous donne la vie, puis vous n'avez pas le jugement. Fait qu'il ramène tous ensemble ce qu'il a amené, il l'amène, dans le fond, devant les gens comme ça, pour qu'ils puissent l'approprier pour eux-mêmes. C'est l'application, c'est l'appel de Jésus à croire ce qu'il vient de dire. Et en passant, l'appel à croire, c'est pas une suggestion. Dieu exige qu'on croit en lui. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une suggestion, la grande commission puis l'évangile. C'est un ordre. Dieu ne veut pas que personne reste sur la clôture, parce que sinon, quand on reste sur la clôture, c'est quoi? C'est un rejet. Déguisé peut-être, mais c'est un rejet pareil. Et donc, c'est une sommation solennelle de par le Fils de Dieu lui-même à ces gens qui, on voit, hein, de plus en plus, sont enragés, ont une haine meurtrière, mais quand même, il les appelle. Comme il a dit avec Jérusalem, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le jour de ta visitation. » Et ça nous amène donc au dernier point pour ce matin, la dénonciation du conflit. Là, il a amené les choses à un point où est-ce que là, on peut dire qu'il change un peu de ton. Verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et ici, il faut juste comprendre, avant que je lise les autres versets, quand il parle d'entendre, c'est pas juste de « Ah, oh, j'ai entendu, puis c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. » C'est une expression pour la foi. Entendre en y ajoutant foi. Okay? C'est vraiment plus que juste entendre comme un gars, des fois, écoute sa femme. « Ah, oh, je t'ai entendu, chérie. » Oui, oui, oui. Maxime se sent mal, il est sous la conviction du Saint-Esprit en ce moment. En fait, on peut voir ici le verset 25, c'est comme la version personnalisée de Jésus de Deutéronome 30, 19, où est-ce que Moïse dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Jésus les amène vraiment face à un choix éternel. Il ramène ses interlocuteurs à l'essentiel, la vie et la foi. Et clairement, on voit quand on lit les autres versets que c'est ça, ce dont il est question, vraiment une question de vie versus la mort et non pas de bien et de mal. « Hey, t'as fait le mal le jour du sabbat! » Non, Jésus ramène les choses à l'arbre de la vie. Ok, regardez, ça dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, c'est vraiment ça. Jésus offre la vie, puis la rejeter, c'est avoir le jugement, c'est arriver à la mort. Et encore, Jésus va employer l'expression d'étonnement ici au verset 28. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Une référence ici à la résurrection. Et pourquoi Jésus leur dit « Ne vous étonnez pas » Ben, je pense qu'il était probablement sous le choc d'entendre Jésus parler avec de pareilles déclarations. Il parlait comme ayant autorité et non pas comme les pharisiens. Il ne s'excusait pas en disant « Ben oui, excusez, c'est vrai, je comprends que vous avez peut-être de la misère à comprendre que je suis le Fils de Dieu. » Non, non, je veux dire, il redoublait de confiance et d'ardeur dans ses déclarations. Puis probablement qu'il avait toute la bouche ouverte de main. Puis il l'écoutait. Qu'est-ce qu'il dit là, ce gars-là? Il était dans l'étonnement deux fois. Ça dit au verset 20, mais aussi ici au verset 28, Jésus fait référence au choc de l'étonnement. On peut dire au choc de l'incrédulité. C'est drôle qu'on peut être choqué soit dans l'incrédulité ou lorsqu'on reçoit la parole de Dieu par la foi, on est sous une autre sorte de choc. On n'est plus pareil. Tout notre monde est renversé, mais pour le mieux. Tandis que si on rejette la vérité, on est sous le choc, mais ça nous amène vers l'endurcissement. Puis finalement, après ça, ce qui nous avait choqué auparavant, vu qu'on s'est endurci avec la lumière que Dieu nous a donnée, on s'enfonce dans les ténèbres, puis de moins en moins, le choc est présent. Encore là, c'est la grâce de Dieu qui leur donne un choc pour les amener à croire en lui. Et verset 29 nous aide à comprendre ici aussi, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Évidemment, ici, Jésus n'enseigne pas le salut par les œuvres, c'est à comprendre, comme dans Jacques, hein, la foi vivante qui produit des œuvres. Là, on comprend, les Écritures s'expliquent par les Écritures. Ça n'a aucun bon sens ici que Jésus enseigne qu'on est sauvé par nos œuvres. Mais c'est vraiment encore là la question de la foi, et de la foi vivante qui produit des fruits. Et ça m'amène à conclure avec le verset 30, qui n'est pas sans importance. Encore Jésus qui parle ici au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » D'abord, question, es-tu prêt à faire face au jugement de Dieu? Et quoi, il y a deux options. Soit vous allez être seul face au jugement de Dieu, puis c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ou vous avez accepté que Dieu a fait tomber le jugement sur son Fils et que vous êtes confié dans le fait que tout est accompli, que lui est mort afin que vous puissiez vivre, que lui a eu la condamnation afin que vous soyez libérés de cette condamnation. Donc, être prêt au jugement, ce n'est pas être une bonne personne, ce n'est pas avoir la bonne religion, c'est où est ta confiance. Puis pensez-y, voulez-vous faire vous-même face au jugement de Dieu ou vous voulez accepter que Jésus a fait face pour vous, pour pas que vous ayez à subir la colère de Dieu? Lui l'a subi. C'est terrible, c'est tombé sur le Fils, mais justement, c'est pour pas qu'on y aille à le subir, mais ça, chacun doit décider pour soi-même. Comme ces gens-là aussi étaient face à une décision éternelle, qu'est-ce que je fais du Fils? Qu'est-ce que je fais de ce qu'il déclare sur moi-même? Est-ce que ta confiance est en Jésus seul pour le salut de ton âme? Est-ce que, enfant de Dieu, ta confiance est ferme en Dieu? Ou peut-être que tu es irrésolu, chancelant? Je ne sais pas c'est quoi la réponse pour chacun ici, puis je n'ai pas besoin de le savoir parce que Dieu le sait, puis il peut vous rencontrer là où vous êtes. Mais tout se joue avec cette expression de Jésus, où est-ce qu'il dit « Je ne recherche pas ma volonté, mais celle de Dieu. » Savez-vous ce qui va entre une personne sauvée, la différence entre une personne sauvée versus une personne qui ne l'est pas encore? Ma volonté versus celle de Dieu. Parce que c'est quoi que Dieu dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste à ceux qui lui résistent, qui veulent persister dans leur voie. Et Dieu insiste à révéler sa volonté à ceux qui insistent à vouloir faire leur volonté. Il y a un clash ici. Puis comment ça peut se résoudre? Simplement en s'humiliant. La porte du salut, elle est bien basse. La porte de la croissance dans le Seigneur, de la sanctification, de la paix, de la joie, elle est basse. Avec Dieu, lorsqu'on s'abaisse, c'est là qu'on est élevé. Dieu donne grâce aux humbles, à ceux qui acceptent de s'humilier, d'être humiliés. Là, la grâce, c'est quand Dieu fait le travail, quand Dieu fait l'impossible. C'est ça l'invitation de Dieu. Mais à ceux qui sont orgueilleux, ceux qui veulent rester droit et le coup raide, vous avez Dieu qui s'oppose à vous. Je ne sais pas pour vous, mais il y a bien du monde qui peut s'opposer dans ma vie, là, mais le dernier que je veux qui s'oppose à moi, c'est Dieu. Parce qui peut résister au Tout-Puissant? Personne. Et c'est ce que ici Jésus fait dans sa grâce. Il a les bras ouverts vers un peuple rebelle et contradisant, et il s'offre lui-même à eux, alors qu'ils ne veulent rien savoir. Quel Dieu incroyable! Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. On a prié pour les Québécois, puis c'est vrai, au lieu de voir « Ah, les Québécois sont donc bien têtes dures », Dieu les aime, les Québécois, puis Dieu peut les convaincre de leur péché, puis les amener de la mort à la vie. Amen! Puis pour nous, le peuple de Dieu, c'est ma dernière parole ce matin. Le peuple de Dieu, là, on a prié tantôt. Notre espoir n'est pas d'un politicien. On comprend, on suit la politique, puis je veux dire, on ne veut pas être ignorant, mais la délivrance, l'espérance, n'est pas dans un politicien, n'est pas dans un homme ici-bas, mais est en Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Par extension, l'espérance de notre pays, de notre province, est dans le peuple de Dieu. Puis le peuple de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre par la foi. Le peuple de Dieu, lorsqu'il est neutralisé, soit par l'indifférence, soit par toutes les distractions de ce monde, puis que là, on était à gauche et à droite, puis on n'est pas affairé au royaume de Dieu, que notre focus n'est pas à la bonne place. Certains, ça ne me dérange pas, il n'y a pas trop à s'occuper de nous autres, parce qu'on fait son travail. Mais si on commence, on entend la voix du Seigneur, puis on y croit, on y ajoute foi, puis on avance où est-ce que Dieu veut qu'on avance, par la foi, alors certainement, on va attirer l'attention de l'ennemi. Mais savez-vous quoi? Il est déjà vaincu. Puis l'ennemi, il ne peut rien faire que Dieu n'ait pas permis. Fait que Dieu va juste s'en servir pour accomplir ses desseins. Ah, Satan veut essayer de nous décourager, puis de nous enrager. Si on se tourne vers Dieu dans ces moments-là, il va être tourné en dérision parce que Dieu va donner une grâce qui est plus grande. Puis lorsqu'on se soumet à Dieu de même, on peut résister au diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de nous. Il est vaincu, qu'on n'ait pas peur de l'ennemi, mais au contraire, qu'on ait confiance en notre Dieu. Que nos problèmes soient bien petits à la lumière de notre grand Dieu. Nous, le peuple de Dieu, qu'on voit les choses dans la bonne perspective. Amen. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Dans ta maison avec ton peuple, comme c'est une joie, Seigneur, de se rassembler comme ça pour te célébrer. Seigneur, c'est toi la personne la plus importante, oui, de tout l'univers, mais à matin ici, Seigneur, et c'est toi qu'on veut rencontrer. Merci que, comme avec cet homme, tu l'as trouvé toi, et tu viens aussi nous trouver là où on est rendu. Ah, des fois, on n'aime pas la façon que tu t'y prends. Des fois, ça nous dérange, ça nous heurte, mais ça, c'est secondaire. Parce que ça t'appartient, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce dont nous avons besoin. On veut juste répondre en te faisant confiance au-delà de ce qui nous heurte ou nous dérange ou ce qu'on ne comprend pas. Voir que c'est toi, Seigneur, qui nous appelle à toi-même. Et même pour les non-sauvés, Seigneur, quelle grâce pour un non-sauvé que sentir sa misère. Il n'y a rien de pire et ça nous attriste de voir les perdus qui se complaisent, qui ne voient pas leurs besoins, qui sont endurcis. C'est triste. Alors, Seigneur, merci de ne pas laisser l'indifférence nous envahir. Seigneur, continue. Et on ne veut pas avoir peur des circonstances, des personnes. Mais Seigneur, on veut te chercher vraiment de tout notre cœur. Merci pour ce temps ce matin. Merci pour toi, Seigneur. Tu es là. Tu es le héros qui sauve, qui a des chants d'allégresse au milieu de nous autres. Merci, Seigneur. On te bénit de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen.